France Inter. France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Imaginez une question simple, presque banale, posée à un groupe de personnes. Quelle est la distance entre Paris et Tokyo ? Chacun a une intuition, certains pensent au temps de vol, d'autres à la taille des continents, d'autres encore répondent au hasard. Si vous réunissez ces personnes autour d'une table et que vous les laissez discuter librement, la conversation s'enlise. Les plus sûrs d'eux parlent davantage, les premiers avis formulés pèsent plus lourd que les suivants et le groupe finit par trancher approximativement. Mais si, au lieu de discuter, chacun écrit sa réponse sur un papier sans se concerter, et que l'on fait ensuite la moyenne, le résultat est étonnamment précis, très proche de la valeur réelle. Pourtant, aucun expert n'a guidé le groupe et aucun chef n'a décidé. Collectivement, le groupe a été plus juste que la plupart de ses membres pris individuellement. Ce phénomène porte un nom, l'intelligence collective. Une intelligence mesurable et fondée sur des lois statistiques simples, mais à condition que certaines règles soient respectées, comme l'indépendance des jugements et l'absence d'influence prématurée. Faire confiance à la structure du collectif permettrait donc d'obtenir de meilleurs résultats, non par vertu démocratique, mais par efficacité mathématique. À l'heure où nos sociétés doivent décider ensemble sur le climat, la santé, la technologie, la démocratie elle-même, la question n'est peut-être pas seulement qui décide, mais comment nous décidons ensemble et surtout dans quelles conditions un groupe devient réellement intelligent. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Mehdi Moussaïd.
Bonjour Mathieu Vidard.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous qui publiez aux éditions Alary, a-t-on besoin d'un chef? Petit traité d'intelligence collective. Nous vous avions reçu il y a quelques années pour parler de la science des foules. Mmh. Vous aviez été aussi commissaire d'une exposition consacrée au même thème à la Cité des sciences et de l'industrie en 2022 à Paris. Est-ce que le travail sur l'intelligence collective, c'est la suite logique finalement du travail et des recherches sur la foule?
Oui, il y a une continuité effectivement. C'est-à-dire que quand je travaillais sur les foules, j'avais des fois ces situations que j'observais où je me disais mais les gens font n'importe quoi, et d'autres moments où je me disais tiens c'est marrant, la foule elle s'auto-organise de façon assez efficace. Et naturellement à un moment il y a cette question qui est arrivée en me disant mais qu'est-ce qui fait cette transition, pourquoi des fois ça bascule du bon côté, pourquoi du mauvais côté, et puis finalement des déplacements collectifs, on est arrivé au jugement collectif et à la thématique plus globale de l'intelligence collective.
Ouais. Ça veut dire quoi alors justement quand on parle d'intelligence collective d'un point de vue scientifique?
La définition est terriblement difficile à trouver. Ça, les chercheurs aiment beaucoup les définitions. Ah ben celle-là, il faut s'accrocher. Il y a beaucoup de discussions dans les publications scientifiques. Le vrai mot qui pose problème, c'est le mot intelligence, évidemment. Parce que, en soi, déjà, si on enlève le collectif, le mot intelligence, il est très, très dur à définir. Alors, collectif, on se doute bien que c'est quand il y a plus d'une personne. Pour le coup, la parade qu'on a trouvée, qui est un peu plus simple, c'est de se dire, bon, on va dire que c'est quand un groupe parvient à faire quelque chose collectivement que chaque membre du groupe pris individuellement n'aurait pas réussi à faire, ou mieux en tout cas. Et donc là, on va parler d'intelligence collective, c'est-à-dire que collectivement, on y arrive mieux que tout seul, que n'importe quel d'entre nous.
Et donc ça, c'est une propriété qui est mesurable, hein.
Selon les problèmes, c'est une propriété qui est mesurable. On fait tout un tas d'expériences sur des problèmes très concrets, pour lesquels il existe une solution objective. Ouais. Et donc ça permet de mesurer concrètement, est-ce que collectivement, on a réussi ou non.
Et donc, il faut faire beaucoup de mathématiques quand on s'intéresse à l'intelligence collective, parce que la loi des grands nombres est un des piliers, justement, de cet aspect-là, hein.
Effectivement, la loi des grands nombres, c'est un des piliers parce qu'il y a pas mal de statistiques, c'est-à-dire que c'est assez fascinant parce que individuellement, on ne peut pas prédire ce que va faire une personne qu'on ne connaît pas, un participant qui arrive au laboratoire, on ne le connaît pas, on ne va pas réussir à prédire ce qu'il fait, il a une liberté, un libre arbitre, etc. Ce qui devient fascinant, c'est que quand on met plein de gens ensemble, d'un seul coup, ça devient prédictible. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont se produire à l'échelle macro, donc à l'échelle du groupe, à l'échelle collective, qui sont prédictibles alors qu'elles émergent de comportements individuels qui, eux, sont indéterminés.
Ouais. À partir de combien de personnes on peut commencer à faire preuve d'intelligence collective, justement?
On travaille sur toutes les tailles de groupe. À deux, déjà, on va parler de collectif. Déjà, avec un duo, on appelle ça une dyade, en l'occurrence, on va déjà commencer à parler d'intelligence collective. C'est plus des petits cas particuliers. La loi des grands nombres, elle, va commencer à s'appliquer, comme tous les principes statistiques, à partir de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes. Ça dépend de la nature du problème.
Ouais. Là, vous parlez d'expérience avec une centaine de cobayes. Mmh. Alors, ce sont à la fois des expériences imaginaires et des expériences réelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Ouais. Alors, effectivement, des fois, quand on travaille sur des gros groupes et qu'on peut justement mesurer cette intelligence collective sur des gros groupes, on peut faire une expérience, c'est plus simple. Sauf qu'il va falloir rassembler un gros groupe de participants, et en plus, il faut le répéter parce parce qu'il faut qu'il y ait une certaine stabilité statistique.
Ouais.
Donc, c'est, d'un point de vue logistique, c'est pas facile. Alors, parfois, avant de faire l'expérience, on va juste y réfléchir. On va faire une forme d'expérience de pensée. On va imaginer qu'on a 100 personnes à notre disposition et on va avoir un problème à résoudre. Hein. Par exemple, voilà, comme vous disiez, trouver des distances entre deux villes ou résoudre un problème de logique ou d'optimisation. Mmh. Et on va se demander comment on pourrait faire pour organiser ce groupe de la façon la plus efficace possible. Et c'est un problème qui est vraiment chouette parce que j'utilise beaucoup avec mes étudiants aussi. Ça stimule beaucoup la réflexion. Le charme de l'exercice, c'est que selon la nature du groupe, sa taille et la nature du problème, eh ben, ça n'a pas la même méthode qu'il faut utiliser. Des fois, il faut juste les faire voter. Et puis des fois, il faut les faire discuter. D'autres fois, il faut faire un brainstorming, etc. etc. Et en fait, il y a cette sorte de répertoire de méthodes possibles, différents types de problèmes, et il y a une correspondance entre la bonne méthode avec le bon problème.
Et on sait tout de suite quelle est la bonne méthode par rapport à la question posée ou pas ?
Non, c'est mon travail en fait. Ouais. C'est de trouver la bonne méthode par rapport à la question posée. Pour certains types de problèmes, on sait maintenant, ça va être bien testé. Et puis pour d'autres, on expérimente. Et en plus, les méthodes, elles ne sont pas en nombre fini. C'est-à-dire que des méthodes, on en invente de nouvelles encore et encore.
Donc ça sert à optimiser finalement hein, par rapport aux questions auxquelles on a envie de répondre.
Oui, optimiser, mais ça peut même être une belle optimisation parce que des fois, la mauvaise méthode va juste donner un résultat catastrophique.
Ouais. Parmi les questions que vous pouvez poser, par exemple, l'équipe de France de football remportera-t-elle une nouvelle Coupe du Monde dans les 12 prochaines années? Autre question qui nous intéresse beaucoup, un parti d'extrême droite gouvernera-t-il la France avant 2040 ou une mission habitée atteindra-t-elle Mars avant 2040 justement? Donc ça, ce sont des événements que les cobayes doivent tenter de prédire. Vous avez fait ce travail-là?
Alors plus généralement, c'est on est dans un sous-domaine de l'intelligence collective, c'est la prédiction collective.
Ouais.
C'est assez clair qu'une des formes d'intelligence, c'est de réussir à prédire ce qui va se produire, ce qui va se passer dans un futur proche, un futur lointain, même à l'échelle d'un animal, d'un insecte. Finalement, la prédiction du futur, ça fait partie de l'intelligence, anticiper ce qui va nous arriver. Mmh. Et donc, on travaille beaucoup sur des problèmes de prédiction. Et on se demande à nouveau, ok, imaginons qu'on ait tout un répertoire d'événements à prédire et qu'on ait 100 personnes à notre disposition, comment je fais pour avoir les prédictions les plus propres possibles? Est-ce que je vais les laisser discuter? Est-ce que je vais chercher l'expert? Parce qu'on peut aussi faire ça, on peut se dire, moi dans mon groupe de 100, je vais juste demander à la personne qui s'y connaît un petit peu parce que son avis aura plus de valeur que l'avis des autres. Ou bien est-ce qu'on fait autrement? Il y a plusieurs façons qui marchent bien, façons de faire qui marchent bien. En général, c'est pas de s'appuyer sur l'expert. En général, ça revient à fusionner les intuitions des uns et des autres. Par exemple, si je demande à chacun de mes cobayes, de mes participants, d'estimer une probabilité que l'événement, en l'occurrence, va se produire, et que je fais une moyenne de ces probabilités, eh bien, je me retrouve avec une valeur qui est commune, qui est assez pertinente, qui est assez proche de ce qu'on va observer en vrai.
Alors, à la question, un parti d'extrême droite gouvernera-t-il la France avant 2040 ? Que répondent justement les cobayes que vous interrogez ?
Je ne pense pas avoir posé cette question en particulier. Il y a des sites internet qui existent où les gens peuvent laisser leur avis et on peut voir comme ça différentes évolutions. Je ne me rappelle pas de la réponse à cette question en particulier.
Ah ben disons, c'est dommage parce qu'elle est quand même vraiment intéressante.
Je me suis focalisé sur une parce qu'elle me paraissait plus importante. C'était, y aura-t-il une guerre nucléaire en 2026 ? Ouais. Et la prédiction est très très faible, proche de 0%. Donc à mon avis, on est tranquille pour 2026.
Bien. Mais posez-la à vos cobayes avant l'année prochaine. Ça peut nous intéresser quand même. Bien avant les sciences modernes, certains mathématiciens, Mehdi Moussaïd, avaient déjà l'intuition de l'intelligence collective. Vous remontez loin dans le temps, hein. Vous citez un mathématicien italien du 16e siècle. Donc déjà, il parlait d'intelligence collective ou... Non. Vous l'avez juste cette intuition-là ?
En l'occurrence, au XVIe siècle, c'était plus les premières théories des probabilités qui commençaient à émerger.
Ouais.
On est encore, je dirais que le début de... prémisse de la première graine de l'intelligence collective, je dirais que c'est autour de la Révolution française, plutôt fin du 18e, avec Nicolas de Condorcet. Et là, pour le coup, on est face à un vrai problème concret, c'est-à-dire que vous imaginez le contexte, la Révolution française qui approche, je crois que Nicolas de Condorcet, ça doit être 1785, quelque chose comme ça, et il se demande littéralement, est-ce que c'est une bonne idée de demander l'avis aux gens, voilà, littéralement. Et ce qui est remarquable avec Condorcet, c'est qu'il ne se pose pas cette question dans un sens éthique ou idéologique, il se la pose vraiment dans un sens mathématique. Je pense que c'est le premier à faire ça, et pour l'époque c'est assez novateur, c'est qu'il va vraiment appliquer des probabilités, des lois de probabilité sur des individus tirés au hasard dans la population, en se disant, ok, si chacun a telle probabilité de donner la bonne réponse, est-ce que je peux demander à plein de monde, et puis fusionner toutes ces probabilités de donner la bonne réponse pour obtenir quelque chose qui est plus fort? Et la réponse est oui.
Et alors, à partir de quand la science cherche vraiment à mesurer l'intelligence collective ? Alors, c'est une histoire plus récente, évidemment.
C'est une histoire plus récente parce que, dans le temps, c'était plus conceptuel. On réfléchissait beaucoup, on faisait des modèles mathématiques comme Condorcet. Je dirais que le premier qui était un peu obsédé par la mesure, c'est Francis Galton. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que il est à la fois génial et un peu détestable, Francis Galton.
Oui, absolument. Galton. Oui, c'est ça. On peut le détester pour des raisons que vous pouvez nous expliquer, d'ailleurs, sur la mesure. Hein,
C'est le père de l'eugénisme. Donc, Francis Galton pensait que des gens étaient plus intelligents que d'autres et que donc pour que la race humaine devienne meilleure dans le futur, eh bien il fallait que ces gens plus intelligents fassent plein de bébés et que les autres soient stérilisés.
C'est ça.
Les théories de Francis Galton qu'on retrouve d'ailleurs sur la table de chevet d'Adolf Hitler, donc vous voyez un peu les conséquences. Donc détestable de ce point-là. En revanche, il est assez fascinant parce que c'est un vrai scientifique, hein, en fait. C'est-à-dire que lui, quand c'est trop conceptuel, ça lui déplaît, c'est pas satisfaisant, il a besoin de démontrer les choses par la mesure. Et donc, il y avait ces idées d'intelligence collective, il y croyait pas une seule seconde. Mmh. C'est un aristocrate, lui, il pense que le pouvoir doit être dans les mains d'un petit groupe de gens. Et donc, il se dit, moi, je vais leur montrer que les gens sont stupides collectivement. Il va dans un endroit très populaire, et populaire dans sa bouche, c'est très péjoratif comme mot. Et en l'occurrence, c'était une foire agricole. Et il demande à tous les gens qui passent, ils sont capables d'estimer le poids d'un bœuf. Il écrit d'ailleurs dans son article, s'ils ne sont pas capables d'estimer le poids d'un bœuf, comment pourraient-ils s'occuper des affaires de l'État ou un truc comme ça. Et donc il demande à 788 personnes d'estimer le poids du bœuf. Il se rend compte avec satisfaction que les gens disent n'importe quoi. Il y en a qui disent 50 kilos, d'autres 5 tonnes, etc. Donc des réponses complètement fausses. Et puis à la fin de l'article, il se rend compte que il y a quand même un petit truc bizarre. Si je calcule la moyenne, ou plus précisément la médiane, de tous ces avis, j'obtiens 547 kilos et le bœuf en pesait 545. Donc étonnamment précis. Mais comme on sent quand on lit l'article qu'il n'est pas trop satisfait du résultat.
C'est difficile à admettre pour lui.
C'est ça, il dit c'est peut-être juste une anomalie statistique et tout, et puis bon, il met ça de côté. Mais finalement, c'est lui le premier qui a mesuré l'intelligence collective.
Bien malgré lui. Ouais. A-t-on besoin d'un chef ? Petit traité d'intelligence collective, c'est chez Alary Éditions. Vous signez ce livre, Mehdi Moussaïd. On en parle évidemment avec vous dans un instant, et avec les questions des auditeurs et auditrices qui font toujours part et preuve d'intelligence collective, comme on le voit tous les jours. Donc envoyez-nous vos messages pour parler de ce sujet ensemble dans quelques minutes.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Les squadres in generale.
En général, les équipes font appel à une créativité individuelle. Mais ce qui est difficile, c'est la créativité collective. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Que se io posseggo il pallone.
Par exemple, si j'ai le ballon sur l'aile droite et que tous les joueurs partent en profondeur, de quelle créativité je peux faire preuve ? Je peux simplement faire une longue ouverture, c'est tout. Mais si je suis sur l'aile droite et qu'un joueur reste en retrait, un autre vient sur le côté, un autre part en profondeur, alors la créativité s'ouvre à moi.
La voix de l'entraîneur Arrigo Sacchi, j'espère que je le prononce bien, entraîneur de l'AC Milan entre 1987 et 1991. Mehdi Moussaïd, on parle avec vous d'intelligence collective. Alors que sort votre ouvrage « A-t-on besoin d'un chef ?» chez Alary Éditions. Est-ce que les sports d'équipe sont, pour le scientifique que vous êtes, des terrains d'études privilégiés pour s'intéresser à l'intelligence collective, avoir des réponses à ces questions ?
Oui, les sports collectifs sont des cas assez intéressants. J'encadre une doctorante en ce moment qui travaille justement dans les centres de formation du FC Nantes et qui essaie justement d'appliquer ces théories et puis de développer des connaissances sur le sujet.
L'intelligence des Canaries alors, en l'occurrence.
Qui est réputée d'ailleurs. Ouais. D'une manière générale, les environnements professionnels, on adore où il y a une équipe qui travaille ensemble. On travaille aussi beaucoup dans les cuisines de haute gastronomie, par exemple. Vous savez, des endroits qui sont très, très hiérarchisés, très centralisés, avec un vrai chef, une vraie autorité, où on va se demander dans quelle mesure le groupe arrive à se décentraliser par moment. Les terrains de sport également, les équipes de vente et autres. Il y a une chose intéressante sur les terrains de foot, c'est les réseaux d'influence. Donc on arrive à extraire des réseaux d'influence, on se demande, dans une équipe de foot par exemple, est-ce qu'il y a un joueur ou une personnalité dans le club qui a beaucoup d'influence sur tous les autres ? Dans quelle mesure mesure on a affaire à une organisation pyramidale, oui. Ou est-ce que c'est vraiment décentralisé?
Alors,
on s'attend à avoir une pyramidale parce qu'on se dit, bah, y a un entraîneur, un capitaine d'équipe, donc c'est quand même quelque chose qui est assez militaire. Mais en réalité, c'est plus subtil que ça. On appelle ça un leadership situationnel. Un leadership situationnel, c'est-à-dire qu'en fonction du contexte, c'est une personne différente qui va prendre les rênes. Une personne qui est plus qualifiée, par exemple, s'il y a un conflit dans le vestiaire, eh bien, la personne qui va résoudre le problème ne sera pas la même que celle qui va motiver les troupes à la 90e minute ou la même à qui on va faire le ballon, passer le ballon quand on est en difficulté.
Mais là, c'est intéressant ce que disait l'entraîneur qu'on vient d'écouter, là, parce qu'il parlait justement de la créativité avec différents postes, différents lieux, et qu'on est beaucoup plus efficace dans ces cas-là qu'en centralisant tout le monde au même endroit derrière le ballon.
Oui, exactement. Et en plus, on peut pas non plus centraliser les instructions, c'est-à-dire qu'on peut pas faire reposer la dynamique d'une équipe de foot juste sur les ordres de l'entraîneur, par exemple, parce qu'il y aurait pas juste pas le temps en fait. L'entraîneur peut pas délivrer un ordre à tous les joueurs sur le terrain. Donc en fait, il faut qu'il y ait une forme d'auto-organisation. Et cette forme d'auto-organisation, pour l'instant, elle est pas concrète, mais c'est des choses qu'on essaie de mesurer dans nos études.
Alors quand on est scientifique, ben on étudie tous les cas de figure, c'est-à-dire quand ça fonctionne bien, mais évidemment quand ça fonctionne moins bien. Et vous insistez beaucoup, Mehdi Moussaïd, sur la fragilité aussi de l'intelligence collective. Pourquoi est-elle aussi vulnérable?
En l'occurrence, les cas les plus intéressants, c'est ceux où ça ne marche pas. Parce que c'est là qu'il y a le plus de choses à apprendre. C'est assez contre-intuitif quand j'ai des étudiants qui sont déçus parce que ça ne marche pas. Je leur dis, mais non, justement, c'est le meilleur moment, en fait. C'est quand ça ne marche pas qu'on apprend plein de choses. L'intelligence collective, c'est fragile. L'idée qu'on s'en fait, c'est celle d'un grand débat. On se dit, on va faire de l'intelligence collective, on va tous s'asseoir autour d'une table et on va en parler, quoi. Et puis on va en parler pendant des heures, et à la fin, collectivement, on aura quelque chose. C'est pas la meilleure approche. Je suis des fois un peu consterné de voir dans les expériences qu'on fait, des expériences vraiment standardisées en laboratoire, où on fait discuter les gens sur un problème. C'est vraiment comme vous imaginez, on recrute 5 participants, on les assoit autour d'une table, on leur donne un problème à résoudre, discussion libre.
Et ils font de la science, sans le savoir.
Et en fait, nous, on analyse la dynamique de discussion, et souvent, c'est pas terrible. Il y a plein de petits problèmes, de petits biais qui vont venir se glisser dans la conversation qui font que le résultat n'est pas optimal.
Alors, l'un des biais, c'est l'homophilie. De quoi s'agit-il exactement?
Alors, l'homophilie, c'est plus à l'échelle d'un grand groupe. C'est la tendance que nous avons à devenir amis avec des gens qui nous ressemblent. Si vous regardez autour de vous, et c'est très probablement le cas, eh bien, vous allez constater que les gens que vous fréquentez au quotidien, ils ont un peu les mêmes préférences, disons, vestimentaires, les mêmes goûts, les mêmes... le même âge, les mêmes positions politiques, les mêmes affinités, exactement. Et ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour l'intelligence collective, parce que nous savons depuis un certain moment déjà que l'intelligence collective naît de la diversité. Si vous formez des groupes de gens qui se ressemblent, le résultat collectif sera moins bon que si vous formez des groupes de gens qui sont très différents. Et on peut le comprendre hein, d'ailleurs, parce que s'ils se ressemblent finalement, ils vont un petit peu tourner en rond sur des choses que n'importe lequel d'entre eux aurait déjà trouvées, et ils vont pas développer quelque chose de nouveau, ils vont pas sortir de cette zone de confort, alors qu'avec des gens différents, bah, vous avez vraiment des informations complémentaires qui vont venir se lier pour former quelque chose qui est plus efficace. Par conséquent, l'homophilie, c'est pas une super nouvelle. Il faudrait faire l'effort de prendre un café avec quelqu'un avec qui on n'a pas l'habitude de le faire.
Mais les réseaux sociaux, ils sont basés sur l'homophilie justement. Nous sommes tous enfermés dans des bulles qui nous ressemblent quand même. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour l'intelligence collective.
Non, c'est pas une bonne nouvelle pour l'intelligence collective du tout. C'est de pire en pire, effectivement, avec les réseaux sociaux, puisque cette homophilie, c'est quelque chose qui nous plaît, et les algorithmes des réseaux sociaux essayent de nous plaire pour qu'on soit des utilisateurs actifs. Et pour ce faire, donc, ils nous connectent avec des gens qui nous ressemblent, ce qui fait que, sur le long terme, eh bien, on est tous entourés d'une masse de milliers de personnes qui sont des formes de clones de nous-mêmes, et on est très contents d'y être, mais c'est pas la meilleure solution. Non.
Donc la diversité, qui est encore à promouvoir, absolument, évidemment, en toute chose d'ailleurs. Mm-hmm. L'attachement préférentiel, donc c'est un autre mécanisme clé aussi, dans les biais que vous étudiez?
Oui, alors c'est pareil, c'est un mécanisme de formation de réseau. L'attachement préférentiel, c'est l'idée que lorsque quelqu'un est un peu plus populaire que la moyenne, donc a plus d'amis, populaire vraiment juste au sens nombre de connaissances, nombre de personnes avec qui elle interagit régulièrement, eh bien, cette personne va cumuler de plus en plus de contacts. Donc, en fait, on va avoir un effet en anglais, rich gets richer, ça veut dire que plus on en a, plus on va en avoir dans le futur. Et ça conduit à des hubs sociaux, donc des personnes qui vont cumuler énormément de contacts sociaux et d'autres qui vont en avoir beaucoup moins, la majorité d'ailleurs. Mmh. Et ça fait un réseau qui est très déséquilibré, avec des sortes d'influenceurs finalement, des gens qui sont très marqués, des plaques tournantes du réseau social.
Et ça, c'est pas bon non plus pour l'intelligence collective ?
Ça dépend de ce qu'on essaie de faire. Ça peut créer des formes de bascule assez efficaces parce que forcément, cet influenceur, comme son nom l'indique, va avoir un peu plus d'influence. Donc, ça réduit effectivement cette forme de diversité. Ça va centraliser un petit peu les avis autour des opinions de l'influenceur. Ça peut être complexe, ouais.
Mehdi Moussaïd, vous montrez aussi que certains individus, en monopolisant la parole avec des personnalités très fortes, par exemple, ont un vrai impact sur la décision aussi.
Énormément d'impact.
Et pas toujours dans le bon sens.
Non, pas dans le bon sens. Ça, c'est vraiment... C'est des choses qu'on observe littéralement au laboratoire. C'est assez frappant, d'ailleurs. Moi, je ne pensais pas que c'était aussi marqué, mais ça l'est vraiment beaucoup. Donc, je vous disais, on fait ces expériences, on rassemble des gens autour d'une table, on regarde la dynamique de discussion, et on fait une chose, on chronomètre le temps de parole de chacun. On ne regarde même pas ce qu'ils disent, on ne regarde même pas le contenu de la conversation, on se contente juste de chronométrer. Ensuite, on les range du plus bavard au moins bavard. On se rend compte typiquement que la courbe n'est pas horizontale, c'est-à-dire que le plus bavard parle beaucoup plus que le deuxième, qui parle un peu plus que le troisième, et les autres ne parlent pas beaucoup. Et ben, quand cette courbe est très marquée comme ça, en général, c'est associé à une décision qui est moins bonne. Alors qu'au contraire, quand on a une courbe plate, donc un temps de parole qui est équilibré, eh bien, statistiquement, la décision est meilleure. C'est assez incroyable parce que, comme je vous dis, on ne regarde ni le contenu des échanges, ni la nature du problème, on se contente juste de regarder le temps de parole et on a clairement cette association entre l'équilibre du temps de parole et la qualité de la décision.
Donc, il faut se méfier des grandes gueules qui nous entourent, c'est ça ce que vous nous dites ?
Non, ça va un petit peu plus loin parce qu'en fait, c'est très facile de dire à un bavard de se taire et il suffit de lui dire « tais-toi ». C'est beaucoup plus dur de faire parler des gens qui sont timides. Et ça, c'est un vrai problème qu'on a quand on essaie de corriger ce problème. On va dire, bon, à la personne qui a trop parlé, on lui dit, essaye de ralentir. Ben, finalement, elle le fait, c'est pas dur. Mais les gens qui osent pas prendre la parole, donc toute la traîne dans le temps de parole, eh bien, eux, c'est beaucoup plus difficile de les faire prendre la parole. Et pour ça, il faut qu'ils soient dans un environnement rassurant, etc. Donc, c'est plus dur, ça.
Ouais. Vous étudiez aussi les communautés animales. Ça aussi, c'est très intéressant, l'éthologie pour l'intelligence collective. On va écouter un architecte qui s'appelle Pierre-Paul Grasset. C'est en 1971, et il nous parle des termites.
L'architecture de la termitière au début n'est pas du tout l'architecture de la termitière à la fin. Il y a un souci constant de climatisation. La termitière climatise. C'est une cité où règne le bien-être, où l'animal peut trouver réunies toutes les conditions qui lui sont favorables. Humidité constante, température constante et aucun courant d'air.
Voilà, il n'est pas du tout architecte, il parle d'architecture, mais il est biologiste à la base, Pierre-Paul Grasset, Mehdi Moussaïd. Donc ça, c'est intéressant aussi d'étudier les bêtes sociales.
Absolument. Ouais, on faisait un petit peu l'historique de la discipline au début, et c'est une étape charnière. On est dans les années 70-80, et en réalité, l'intelligence collective à l'échelle des humains, elle n'est pas du tout développée. C'est surtout les biologistes qui vont commencer à étudier les fourmis, les termites, etc., qui vont faire des découvertes sensationnelles, où on a littéralement un système, une fourmilière composée de plein de petits éléments, et chaque élément individuellement ne peut pas faire grand-chose, mais de manière stupéfiante, quand on les met tous ensemble, eh bien, une colonie de fourmis fait des choses incroyables. Et ce sont les biologistes qui, justement, en essayant de modéliser ça, de comprendre comment ça fonctionne, ont introduit cette idée d'abord d'intelligence en essaim. Ça s'est ouvert petit à petit aux bancs de poissons, aux vols d'oiseaux, et puis seulement à la toute fin qu'on s'est dit, c'est souvent le cas d'ailleurs en science, qu'on s'est dit, ah mais peut-être que ça s'appliquerait, peut-être que ça s'appliquerait aussi à nous, parce que finalement on est des animaux comme les autres,
c'est ça.
Et que c'est à ce moment-là.
Mais les observations faites par exemple sur les termites, on peut les dupliquer sur l'humain ou pas?
Dans une certaine mesure, ouais, conceptuellement. Par exemple, les termites construisent leur termitière sur un mécanisme qu'on appelle de la stigmergie, c'est-à-dire que chaque individu ne va pas obéir aux ordres d'un chef, chaque individu va se laisser guider par l'état d'avancement du projet. Donc vous avez un termite qui voit la structure en train d'émerger, puis qu'il y a un petit bout qui manque, ben tiens, je vais aller ajouter ce petit bout là, et puis l'autre qui voit qu'on a mis le petit bout va en faire une autre partie, etc. Donc en fait, chacun s'adapte sur le travail que les autres sont en train de faire. On s'adapte tous sur ce que font les uns et les autres, et collectivement ça marche. Ce concept de stigmergie, si on y réfléchit, c'est celui qui est à l'œuvre par exemple sur Wikipédia. Wikipédia, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un chef, un éditeur, un rédacteur en chef qui a décidé comment on allait structurer l'article. Chacun profite du produit en se disant, tiens, bah, il manque un bout, je vais prendre l'initiative de l'ajouter parce que je me sens suffisamment connaisseur. Ça peut être juste corriger une faute d'orthographe, ajouter une image, ajouter un chapitre, etc. C'est le même fonctionnement finalement.
Et ça, c'est fiable ?
Ça marche très bien, Singberger. Il y a des défauts.
Ouais.
Par exemple, ça encourage un peu l'inaction. C'est-à-dire que quand on attend que ce soit fait et qu'on prend juste l'initiative de temps en temps, eh bien, finalement, ça fait que beaucoup de gens vont juste profiter, vont vraiment participer.
Comment une idée peut-elle circuler jusqu'à devenir collective ? C'est ce dont nous allons parler dans la dernière partie de cette discussion avec vous, Mehdi Moussaïd. Je rappelle le titre de votre livre « A-t-on besoin d'un chef ? Petit traité d'intelligence collective ». C'est aux éditions Alary.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au carré.
On a décidé de travailler de façon sociocratique suite à une proposition que j'ai amenée à l'équipe. C'était dans les années 2007-2008. J'ai fait une journée d'initiation en sociocratie, donc j'ai découvert, moi, en tant que chef d'entreprise, la sociocratie. Et je me suis dit, ce serait un mode de gouvernance intéressant, ça, pour mon entreprise. Je te dirais que ça coule, nos rencontres vont de plus en plus vite. Ça a amené une maturité aussi dans l'équipe, une solidité, ce qui fait que c'est naturel pour nous maintenant. Tout ce qu'on fait, les décisions qu'on a à prendre, ça fait partie de notre quotidien tout le temps.
Elle s'appelle Evelyne Robert, chef d'entreprise au Québec. Elle parle de sociocratie. Mehdi Moussaïd, vous qui parlez d'intelligence collective dans votre livre, est-ce que c'est un autre modèle de fonctionnement en intelligence collective, justement la sociocratie?
Disons que dans les entreprises, dans le monde professionnel, l'intelligence collective, c'est quelque chose qui est bien vu. Je vois que quand je discute avec des gens qui ont beaucoup de bonne volonté, de bonne intention, ça peut fonctionner. En revanche, quand c'est mis en pratique, parfois ça manque un petit peu de méthode. C'est-à-dire que les gens le font un petit peu intuitivement et notre intuition peut nous tromper sur ce genre de choses. Et si on ne le fait pas de manière méthodique et qu'on organise des grands débats, comme je disais tout à l'heure, sur tout et n'importe quoi, bah, en fait on peut vite s'enliser et puis prendre des mauvaises décisions, tomber dans les différents biais. Mais avec un peu de méthode, ça peut fonctionner.
Donc justement, pour que ça arrive à se déployer dans une entreprise, par exemple, comment ça doit se passer ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments clés là, pour qu'on comprenne concrètement ?
Ça dépend vraiment de l'activité de l'entreprise, de sa taille, etc. C'est plus difficile que ça, mais je dirais que d'une manière générale, le modèle Termite dont on parlait tout à l'heure, qui consiste finalement à faire ce qu'on sent capable de faire et puis de prendre l'initiative. Donc on se laisse guider par ce qu'il reste à faire plutôt que par les consignes d'un chef. Déjà, ça peut être une bonne façon de fonctionner ensemble. En général, les modèles d'intelligence collective fonctionnent bien quand il y a un intérêt collectif et quand il y a peu d'intérêt individuel. Faut faire attention à ça. Donc effectivement, si les gens essaient de travailler pour eux-mêmes plutôt que pour le groupe, ça peut vite partir hors de contrôle.
On dit que ce sont souvent les ONG qui adoptent ce mode de fonctionnement, donc de la sociocratie, ou encore des associations qui portent des idées humanistes ou humanitaires, parce que précisément c'est aussi dans la nature même de leur travail.
Exactement, précisément pour ça, parce que cet intérêt individuel est absent.
Mehdi Moussaïd, vous prenez l'exemple du test de Raven utilisé pour mesurer le raisonnement logique. Qu'est-ce que cette expérience collective permet de démontrer?
Ok, le test de Raven, c'est un test qui est très pratique, c'est un test qui mesure un aspect de l'intelligence qu'on appelle la fluidité du raisonnement non-verbal. C'est un peu pompeux comme nom, mais ça veut juste dire que c'est un test de logique, et qui est très commun en science. Et en fait, en général, il est administré à une personne seule, et nous, on a détourné ce test, on essaie d'administrer à des groupes de gens, pour se dire comment on va faire pour organiser notre groupe, pour qu'ils aient le meilleur score possible à cet exercice de logique, un petit peu difficile parfois. Et c'est un exercice vraiment chouette, c'est une réflexion assez chouette, parce qu'il y a plein de façons de faire. On pourrait se dire, on va laisser le groupe discuter sur chaque question, et voir si ça marche. Ça marche pas terrible, à nouveau, parce qu'il y a trop d'effets d'influence, il y a des gens qui vont s'imposer parce qu'ils parlent bien et ils n'ont pas nécessairement la bonne réponse et donc ils vont guider le groupe dans la mauvaise direction. On pourrait essayer de filtrer, etc. Bon, il y a plein de façons de faire et la façon qui marche le mieux, c'est le vote. Finalement, si vous demandez à plein de gens, même ceux qui ne sont pas qualifiés, de voter sur un test de logique de ce genre, eh bien vous obtenez quasi systématiquement 100% de bonnes réponses. Et ce n'est pas une surprise dans le sens où on a compris pourquoi ça marche, parce que ça repose sur un mécanisme de cumul d'intuition. Donc les gens vont avoir des éléments de réponse, mais pas la réponse entière. Donc ils ont capté juste un petit morceau de la réponse. Et comme les gens comprennent des morceaux différents, et bien quand on les fait voter, ça se cumule et ça pointe vers la bonne réponse. Donc
mais c'est incroyable, du point de vue des statistiques, presque 100% de bonne réponse.
Ouais, presque 100% de bonne réponse. C'est
mieux que le loto, là.
C'est mieux que le loto. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors attention, il ne faut pas tomber dans le piège où on se dit, mais le vote fonctionne très bien, je vais voter pour tout et n'importe quoi. Parce que quand on change de type de problème, d'un seul coup, le vote ne fonctionne plus. Je prends juste un exemple rapide. Les questions de culture générale où il y a des pièges. Nous, on fait au labo beaucoup de quiz capital. On on s'amuse beaucoup avec les quiz capitales parce qu'il y a plein de faux amis. Vous pouvez très facilement faire tomber la majorité. Par exemple, je suis sûr que la majorité de nos auditeurs pensent que la capitale de la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan, mais c'est pas le cas. Et il y a plein de pièges comme ça dans les quiz capitales. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on a un cas de figure où la majorité ne fonctionne pas. Ah, quelle méthode on pourrait utiliser pour la remplacer ?
Et donc, quelle est la capitale de la Côte d'Ivoire ?
Yamoussoukro.
Merci beaucoup. À quel moment on peut dire qu'une idée cesse d'être marginale pour devenir réellement collective, Mehdi Mousseïd ?
Alors, il y a dans la dynamique collective ce qu'on appelle des points de bascule. Un point de bascule, c'est un moment où des idées qui sont portées par une petite minorité de gens deviennent la norme. Ouais. Ok, donc les points de bascule, on peut penser par exemple au mouvement MeToo, le hashtag MeToo qui s'est beaucoup développé. Ça arrive d'un seul coup. En général, il y a un état social avant, et puis on a une transition soudaine, qu'on appelle une transition de phase, et il y a un état après. Et cette transition, elle est très très difficile à prévoir. Ce sont des dynamiques de points de bascule aussi qui conduisent aux révolutions. Par exemple, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le printemps arabe, vous savez, dans les années 2010, oui. où à nouveau on a cette bascule et c'est porté par des phénomènes de contagion comportementale où chacun va commencer à faire comme son voisin et le voisin comme son voisin et puis comme un feu de forêt, il y a un embrasement général qui se produit d'un seul coup. Sauf que cet embrasement, il ne se produit pas à chaque fois. Et c'est un vrai mystère de savoir quand est-ce que ça se produit, quand est-ce que ça ne se produit pas. Notez cependant que si on arrive à maîtriser la science du point de bascule, la société sera un peu bizarre.
Ouais. Mais vous parlez justement des contagions, il y a différents stades aussi, parce que l'intelligence collective, c'est très complexe, il y a beaucoup de nuances, c'est ce qu'il faut aussi comprendre. Il n'y a pas des recettes comme ça toutes faites. En tout cas, c'est ce qu'on peut apprendre dans votre ouvrage. Et il y a beaucoup de questions pour vous qui sont arrivées sur le site de la Terre au Carré. Comme la question de Stéphane, par exemple, qui vous demande si la foule qui chante toujours juste relève de l'intelligence collective.
Oui, la foule qui chante toujours juste relève de l'intelligence collective. Très bonne question, merci. C'est une étude de cas assez intéressante où si vous écoutez des milliers de gens qui chantent à l'unisson, de loin, eh ben, ça sonne vraiment beau et c'est assez émouvant. Et on se dit, ah, c'est chouette, ils chantent juste. Sauf que si vous approchez votre oreille d'une personne en particulier, vous vous dites, ah non, pas lui. Lui, il chante vraiment faux.
C'est ça.
Vous allez voir quelqu'un d'autre, ah, lui non plus et lui non plus. Et en fait, c'est quand on recule qu'on entend un tout et ce tout sonne juste. Et ça, c'est assez joli.
Anne-Marie demande, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait aider à développer l'intelligence collective ?
Ouais, on travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle aussi en ce moment. Oui et non, hein, c'est assez complexe pour le faire vite. Ça peut développer une forme d'intelligence collective et ça peut aussi la freiner. Typiquement, dans les problèmes d'innovation, de créativité, on se rend compte que si on a un groupe qui utilise des outils comme des modèles de langage, des assistants, en fait, la créativité collective va être réduite parce qu'ils vont tous un peu converger vers la même idée qui a été proposée par l'IA. En revanche, ça peut aider dans d'autres situations. Mmh. C'est complexe.
Bon, donc le cerveau humain, ça reste quand même pas mal par rapport au réseau de neurones.
Ce qu'on a en général comme résultat, c'est que l'hybride fonctionne pas mal. Mmh. Mais il faut savoir l'utiliser.
On va écouter le message vocal de Marie-Hélène qui vient d'arriver sur l'appli Radio France.
Bonjour, merci pour cette émission sur l'intelligence collective. J'avais une question sur le lien qui pourrait exister entre la pratique de l'intelligence collective et le mode d'organisation de la structure qui la pratiquerait. Est-ce que c'est plus pratiqué dans les organisations collaboratives de type coopérative, mutuelle, association, que dans des entreprises capitalistes classiques ? Merci.
Merci Marie-Hélène pour votre question. À Mehdi Mousseïd qui vous répond.
Oui, clairement. La raison aussi, c'est parce que dans un contexte associatif, on va moins essayer de performer ou de maximiser un revenu ou des choses comme ça. Mm-hmm. Et donc, nécessairement, on se débrouille un petit peu tous ensemble. Et en faisant ça, on touche un petit peu à de l'intelligence collective. On essaie de décentraliser, on essaie de se mettre d'accord, on essaie moins d'optimiser. À nouveau, les méthodes ne sont pas nécessairement les bonnes, mais l'intention est parfaite. Au contraire, dans une entreprise où on va essayer de maximiser un profit, par exemple, eh bien, c'est risqué de décentraliser. Et le chef aime bien garder dans ses mains le destin de l'entreprise, donc prendre les décisions lui-même, et on va se retrouver avec des choses qui sont plus verticales. Donc oui, il y a clairement une différence.
Florent, justement, demande s'il est possible de stimuler cette intelligence collective pour les prochaines générations par des pratiques régulières à l'école ou dans d'autres cadres collectifs. Est-ce que c'est déjà appliqué ou pas, ça ?
Non, c'est pas appliqué, mais s'il y avait du pouvoir, c'est ce que je ferais en premier. J'irais mettre un module intelligence collective.
Vous imposeriez l'intelligence collective ?
Parce qu'en fait, il y a une vraie raison derrière tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui fonctionnent super bien,
ouais.
Sauf qu'elles ne marchent que si elles sont partagées. C'est-à-dire que si je suis le seul dans un groupe à connaître la recette qui va fonctionner, bah finalement, ça ne va pas fonctionner parce que les autres ne vont pas jouer le jeu et si je l'impose, on est dans une dynamique un petit peu différente. Donc il faut vraiment que ce soit une culture commune. Si on a une culture commune de comment discuter efficacement, équilibrer le temps de parole et ce genre de choses, eh bien oui, quand on arrivera à l'âge adulte, on partagera tout ce savoir et ça marchera mieux.
Ah, une question que j'aime beaucoup de Gilles. Comment peut-on expliquer que tout un groupe puisse se tromper alors qu'un seul individu a lui trouver la solution? Est-ce que ça vous arrive, ça, de temps en temps, dans vos expériences?
Ça arrive typiquement sur les cas de questions pièges, vous savez, où en général, la majorité tombe beaucoup dans les pièges.
Mm-hmm.
Quand on a des situations où il y a une option qui donne vraiment envie, il y a beaucoup de gens qui vont tomber dedans, il y a des gens qui arrivent à éviter le piège, et le défi, c'est de faire conduire le collectif dans la bonne direction.
Allez, on va écouter le message de Gabriel.
Bonjour La Terre au Carré, bonjour Mehdi Moussaïd. J'ai une question qui tue peut-être un petit peu. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, le vote aux élections, c'est l'intelligence collective ou pas ?
Ah, très bonne question là aussi. Merci Gabriel.
Ouais, c'est le cas le plus difficile parce qu'on n'est pas sur un problème comme on a l'habitude d'étudier au labo, un problème qui a une bonne réponse objective. Ce qu'on fait au labo, nous, c'est qu'à chaque fois, on connaît la bonne réponse et on peut comparer comme ça. On est sur des problèmes un peu différents qui sont de nature des préférences et des sensibilités de chacun. Donc, ça va être un petit peu difficile d'évaluer la qualité du vote.
Mmh.
Ce qu'on sait, en tout cas, pour sûr, c'est que il faut éviter les effets d'influence trop marqués. Et il y en a un en particulier qu'on retrouve tout le temps, c'est le sondage pendant une campagne. Donc vous avez une campagne qui est en train de se dérouler, l'issue n'est pas encore arrivée, et on voit au fur et à mesure quel est l'état des votes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter d'une manière générale. On le retrouve un peu partout, c'est-à-dire que si je vois que actuellement la majorité tend pour une option, ah tiens, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça peut être pas mal, ben, en fait je vais me laisser entraîner par la majorité, puis ça crée des effets d'amplification comme ça, où les premiers candidats ou les premières options qui ressortent vont ressortir encore plus. Mmh. Donc on a ces effets d'amplification. Moi, si je pouvais, j'interdirais les sondages.
Carrément.
Voilà.
Très bien. Merci beaucoup Mehdi Moussaïd d'être venu. On aurait pu parler encore des heures avec vous, mais je conseille à nos auditeurs et auditrices de lire votre ouvrage. A-t-on besoin d'un chef? Petit traité d'intelligence collective. C'est à envoyer à bon nombre de celles qui nous dirigent. C'est aux éditions Alary. Merci beaucoup d'être
venu. Merci pour l'invitation.
Nous en parler. Merci beaucoup à Jean-Philippe Verret qui a préparé ce dossier. Enzo d'Hospital qui était à la technique. Jérôme Boulet qui réalisait cette émission. Et Lucie Sarfati pour la coordination de La Terre au Carré.